Drogue. Contrôle. Performance. Soupçon.
De la gloire au scandale. Comment la soif de victoire a pu bouleverser le monde du sport.
Bonjour, je m'appelle Lou Levadou et aujourd'hui, nous allons revenir sur l'affaire Festina. Ce balado relatant une affaire essentielle dans l'histoire de la lutte contre le dopage dans le sport sera divisé en 3 épisodes. Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 2, nous vous raconterons le processus judiciaire ayant suivi l'affaire. Avant tout, je vous rappelle qu'il est bien important d'aller écouter l'épisode 1 de cette série de 3 pour bien comprendre tous les enjeux de cette affaire.
L'étau se resserre aussi autour des dirigeants du cyclisme français. Le président de la Ligue de cyclisme professionnel a été lui aussi mis en examen aujourd'hui par le juge lillois chargé du dossier.
C'est pour complicité de facilitation et usage à autrui de produits dopants que Richard Virenque a été mis en examen par le juge lillois Patrick Kell, qui instruit l'affaire Festina depuis juillet 1998.
Ce n'est que début septembre 1998 que l'étude en justice du dossier Festina va s'accélérer. Le juge Kell a exploré toutes les pistes et a même fait entendre d'anciens coureurs de l'équipe Festina, tels que Lilian Le Breton, qui a admis que ce fut sous les coureurs Festina qu'il a découvert l'EPO dès 1996. Puis, le juge Kell se concentre sur les filières d'approvisionnement en produits dopants. Il s'avère que les produits étaient importés d'Espagne, du Portugal ou de Belgique par les docteurs Jiménez et Rekiertz, avec la complicité de Willy Voet. De plus, certaines substances provenaient d'une pharmacie de la petite commune des Hautes-Alpes où habitait Willy Voet. Le masseur qui avait réussi à convaincre les pharmaciens venait sans ordonnance récupérer les produits et le matériel médical nécessaire. Une fois les commandes réglées, le couple de pharmaciens les effaçait de l'ordinateur de l'officine. Les pharmaciens furent également interrogés par la police. En novembre, les résultats d'analyse des coureurs effectués au moment des auditions sont communiqués au juge. Ces analyses très attendues pour faire avancer l'affaire révèlent effectivement la présence de produits dopants, EPO, caféine, cortisone, dans les organismes des coureurs. Les interrogatoires se poursuivent tout le long de l'année 1999 pour permettre au juge Kell de recoller les morceaux de cette affaire afin de retracer en détail le processus de dopage organisé de l'équipe. Le juge Kell n'était au départ pas du tout familier avec le monde du cyclisme ni avec le dopage. À force de renseignements et de documentation, il a emmagasiné des connaissances impressionnantes. Le grand procès débuta au tribunal correctionnel de Lille le 23 octobre 2000 et durera plusieurs semaines. Il s'agit du premier procès pour dopage organisé. L'ambiance est particulièrement tendue dans la salle d'audience. Les juges ont pour mission de déterminer les responsabilités de tous les participants à ce système de dopage. Les dirigeants, le corps médical et un seul coureur, Richard Virenque, pour complicité d'incitation à l'usage de produits dopants. Celui-ci est constant sur ses arguments. Il consent avoir pris quelques substances, mais il pensait réellement qu'il s'agissait de vitamines ou de compléments alimentaires. Cette défense ne peut pas être retenue par le juge. En effet, les connaissances qu'il a acquises sur le dopage, les témoignages recueillis et les faits établis, tels que l'existence de carnets de suivi, vont à l'encontre des arguments de Virenque. Celui-ci finira donc par avouer sa participation au système de dopage, mais il maintient cependant qu'il ne s'agissait pas d'une triche, cela était nécessaire pour le sport et pour gagner. La justice rendra son verdict le 22 décembre 2000. Bruno Roussel est condamné à 1 an de prison avec sursis et 50 000 francs d'amende. Willy Voet est condamné à 10 mois de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende. Richard Virenque, lui, est relaxé. Or, le 29 décembre, la Fédération suisse de cyclisme dont il relève lui inflige une suspension de 9 mois et une amende de 4 000 francs suisses. Cette sanction fait suite au fait qu'il ait nié s'être dopé pendant 2 ans. Le docteur Eric Rekiertz, qui avait passé près de 100 jours incarcéré à la prison de Douai, et qui avait été condamné à une amende de 600 000 francs belges, est décédé dans la nuit du 25 au 26 janvier 2001 des suites d'un cancer du poumon. C'est ainsi que l'affaire de dopage entourant l'équipe Festina s'est terminée, pratiquement 2 ans et demi après l'arrestation anodine de Willy Voet à la frontière belge. Il faut tout de même bien garder en tête que l'affaire Festina n'a servi que de tremplin pour dévoiler les problèmes de dopage qui entouraient le cyclisme mondial et le Tour de France. De nombreuses autres affaires ont surgi cette année-là pour plusieurs autres équipes du Tour de France. Le Tour de France 1998 fut pour la première fois aussi médiatisé. Bien qu'extrêmement suivi habituellement, cette année-là, un très grand nombre de journalistes, dont certains pas du tout spécialisés dans le sport ou bien dans le cyclisme, sont venus couvrir l'événement. Les différents reportages sur le sujet furent diffusés en masse dans les journaux étrangers. Cela eut pour conséquence notamment l'ouverture d'enquêtes pour de potentiels problèmes de dopage dans d'autres sports et d'autres pays. Malheureusement, alors qu'en 1999, tous les espoirs se fondaient sur le Tour du renouveau au sein duquel le dopage n'avait nullement sa place, le vainqueur de l'édition ne fut autre que le multiple dopé Lance Armstrong. L'affaire Festina a grandement entaché l'image du Tour de France et du sport en général. Elle a mis en lumière un large système de triche et a permis une prise de conscience quant à la lutte contre le dopage dans le sport. Dans ce deuxième épisode, nous nous sommes concentrés sur le processus judiciaire ayant entouré l'affaire Festina. Dans un troisième épisode, nous discuterons alors spécifiquement des avancées et de la mise en place du dopage en 1998, ainsi que des conséquences que le scandale a entraînées. C'était Lou Levadou, et je tiens à remercier David Pavot, Alexandra Devouge, Jess Fafard-Théoré et Thomas Léger pour la conception de ce balado. Pour en savoir plus sur les activités de la chaire, visitez notre page sur le usherbrooke.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn. À bientôt !